Loz Actuali.
Loz Actuali.
Revue de presse.
Hashtag
portrait chinois.
Et bien sûr,
l'invité du jour.
C'est tout de suite dans Loz Actuali.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau numéro de Loz Actuali. Bonjour Léa.
Salut tout le monde.
Bonjour Eric.
Bonjour les gens.
On excuse Bastien qui peut pas être avec nous, mais qu'on retrouvera tout à l'heure puisque nous avons enregistré sa chronique hashtag hier. Et nous accueillons notre invité du jour, Frédéric Dumortier, directeur de la mission locale. Bonjour Frédéric.
Et bonjour à tous.
Alors, au programme aujourd'hui, nous parlerons notamment du mois de l'économie sociale et solidaire avec la manifestation lozérienne « Le lien social, ça ne sert à rien ». Point d'interrogation, on en parlera bien entendu dans cette émission. Eric, tu nous parleras de COP.
Ouais, la COP 24.
Et voilà. Ensuite, Léa, tu nous parleras...
De TikTok, une nouvelle appli qui fait fureur chez les jeunes. Voilà, la pire intro, pas jeune du tout, mais bon.
voilà, et on retrouvera évidemment le portrait chinois. Donc la rubrique hashtag, alors vous verrez, Bastien s'est lâché, il y en a 5 cette semaine. Balance ton gilet jaune, merci prof, infirmière oubliée, this is not consent, et nous toutes, voilà. Et puis il y aura la revue de presse évidemment dans cette émission, c'est tout de suite après ça.
Loz Actuali.
Allez, première partie de cette émission, et comme d'habitude, on fait connaissance avec notre invité. Alors, voilà, Frédéric Dumortier, directeur de la mission locale, avant de parler un petit peu de ce qui fait l'actualité de cette mission locale, et notamment ce mois de l'économie sociale et solidaire. On parlera aussi de l'avenir un peu des missions locales, parce que c'est quelque chose d'important. Peut-être, avant de revenir peut-être un peu sur ton parcours, peut-être tu peux nous dire, justement, qu'est-ce que la mission locale et à quoi elle sert?
Ah, merci de cette belle question. et j'excuse tout d'abord tous les auditeurs qui vont m'entendre bégayer et être approximatifs. J'arrive comme une fleur. J'ai encore une fois fait confiance à Guillaume, à qui j'ai une confiance aveugle. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais mardi entre midi et deux ?» J'ai dit « Rien ». Eh bien, viens. Bon, voilà, je me retrouve l'invité surprise. J'adore. Et donc, en même temps, j'adore parler de moi, donc c'est super. Non, la mission locale, qu'est-ce que la mission locale? Et en plus, j'aurais pas eu la même réponse cette semaine d'il y a quelques semaines ou quelques mois. Ma mère me demande « qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui dis « écoute, la mission locale, pour faire simple, c'est le pôle emploi des 15-25. » Eh bien, je sais tout sauf le pôle emploi des 15-25, en fait, la mission locale. Alors, certes, on a un objectif, et qu'on partage avec Pôle emploi, qui est l'insertion professionnelle. Et nous, on va se concentrer sur les 16-25 ans. Donc, on sera... vigilant, et notre objectif ultime, ça va effectivement d'être de trouver du travail et d'être dans la recherche de cette insertion professionnelle définitive avec nos jeunes. Mais pour y arriver, on met une batterie de services, une batterie d'accompagnement qui prend en compte bien plus la question que la question professionnelle. On va travailler sur la question du logement, on va la travailler tout d'abord sur la question du projet. On a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui arrivent déscolarisés et totalement incapables de s'inscrire dans un projet de vie tout simplement. Et donc on va travailler avec eux sur cette question-là. On va leur donner des outils pour qu'effectivement ils puissent s'inventer un avenir pour ceux qui ne l'auraient pas encore complètement en tête. Donc on s'invente un avenir à la mission locale et on met tout en œuvre pour que ça puisse être possible.
C'est quel genre d'outils que vous avez ?
Bah, c'est à la fois, par exemple, on a dans le cadre de la garantie jeune, qui est un dispositif spécifique, la possibilité de mettre du collectif. Alors, on fait à travers soit une approche ludique, soit à travers des outils pédagogiques spécifiques, la possibilité de se re-questionner et aussi d'avoir des informations. En partie, un objectif qu'on se donne, c'est que les jeunes se construisent un réseau. Ce qui leur manque souvent, c'est d'avoir des personnes référentes, notamment des personnes adultes référentes. Et donc, on va les équiper de méthodes pour pouvoir aller rencontrer ces adultes. On va les faire, on va créer cette rencontre, par exemple, et on va les aiguiller dans cette dimension de réseau. Voilà, ça c'est un des exemples. On va travailler aussi beaucoup sur la question de la santé, parce qu'on a des jeunes qui sont en grosse difficulté, soit à travers des problématiques de prise de produits ou tout simplement par rapport à des problèmes de santé qui les mettent en difficulté. C'est souvent tabou, la question de la santé, la question du handicap. Et ça va être aussi l'occasion de travailler avec eux, de mettre ça sur la table, de parler avec eux, de faire tomber des représentations et de dépasser leurs freins.
Combien de jeunes sont accompagnés à peu près sur une année par la mission locale ?
Alors, on a à peu près 1300 jeunes à accompagner. C'est ce qu'on va, c'est le potentiel en gros des jeunes qui sont inscrits à la mission locale. Et on a à peu près entre 400 et 500 jeunes qui viennent tous les ans nous rencontrer. Voilà.
Et dans la structure, on retrouve quel type de métier quel est en fait comment se structure l'équipe de la mission locale? Quelles sont les compétences qui sont mises à disposition? Alors,
le métier qui se retrouve au cœur de la mission locale, c'est le métier de conseiller en insertion professionnelle. Ça, c'est le titre qu'ils ont et qui vient contredire de fait tout ce que je viens de dire. Donc, ils sont conseillers. Pas qu'en insertion professionnelle, conseiller en insertion logement, conseiller en insertion santé. Encore une fois, j'insiste vraiment sur cette notion d'accompagnement global. Donc, ce sont des conseillers, alors avec des profils assez différents. Ça va d'assistante sociale, éducateur spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale, pour l'essentiel de l'équipe. Et donc, on a... Alors ça, c'est un peu la spécificité lozérienne. On a des conseillers qui sont par secteur de territoire, puisqu'on se doit d'aller vers les jeunes. Alors certes, on travaille avec eux la question de la mobilité, mais dans un premier temps, on se doit d'aller sur le territoire. Donc on tient des permanences sur l'ensemble du département. Donc on a des conseillers qui se partagent comme ça les secteurs géographiques. Et puis on a des conseillers là, plus dédiés à la garantie jeune, parce que c'est un accompagnement spécifique, notamment sur la dimension collective. Ce qu'on ne fait pas dans l'entretien individuel de secteur, on va rencontrer les jeunes et on les voit en entretien individuel. Dans la garantie jeune, on met beaucoup de collectifs et ça change la nature de notre accompagnement. Ça change même le regard des jeunes sur eux-mêmes, sur leur parcours. Donc ça, c'est un nouveau métier, une nouvelle dimension qu'on a. Donc on a une équipe aujourd'hui de 3 conseillers, bientôt 4, sur la garantie jeune. Alors bien sûr, les liens sont au quotidien entre ces équipes. Il n'y a pas une équipe garantie jeune, une équipe conseiller. Il y a des jeunes qui... Voilà, on va discuter au quotidien entre nous et pour justement créer ces liens. On a après un conseiller qui était plus dédié... Alors son métier évolue parce que l'offre aussi évolue. On avait, jusqu'à pas très longtemps, 3 conseillers sur les contrats aidés. Alors, les contrats aidés étant ce qu'ils sont, on a réduit l'équipe. Mais aujourd'hui, on garde un conseiller qui travaille sur cette dimension-là. Et puis après, ce sont des fonctions support. On a des personnes à l'accueil, des personnes pour la comptabilité, secrétariat. L'informatique, qui est un point important parce que du fait de nos permanences, du fait aussi de notre reporting, c'est-à-dire aujourd'hui, et ça c'est vrai dans tous les métiers d'accompagnement, on se doit de garder des traces de notre accompagnement, de faire du... Voilà, de justifier, d'avoir un suivi. Et ce suivi-là, il est numérique aujourd'hui, bien sûr. Et donc, on a là des fonctions, une fonction support qui est quasiment dédiée à notre accompagnement de cet outil-là.
Et elle dépend de qui, elle dépend de qui la mission
Alors, elle dépend
de la deuxième question, c'est est-ce que vous avez une obligation de résultat ou,
oui.
ou quelque chose de...
Alors, elle dépend de qui, ça c'est... Alors, elle a une présidente à cette mission locale, parce que c'est une association, loi 1901. Donc c'est Patricia Brémond qui est présidente. Elle y est au titre notamment de son mandat de conseillère départementale. Ensuite, on a le département qui est présent, l'État, qui est la structure qui finance et qui est représentée par la directe, qui est à notre conseil d'administration, la région, qui est un financeur aussi important, et de plus en plus les collectivités territoriales, et là, pour le coup, les comités de communes. Ça, c'est le cœur de notre gouvernance. Département, État, région et les comités de communes. Et après, on a des personnes de la fonction... par exemple, la Ligue est présente... La Ligue de l'enseignement, pardon, est présente dans notre conseil d'administration. Voilà, on a des personnalités comme ça qui viennent nous appuyer.
Obligation de résultat.
Alors,
deuxième question.
Et j'y viens. Et en lien avec cette obligation de résultat, je faisais le point avec justement la gestionnaire de la structure. On est à plus de 38 conventions aujourd'hui. Alors, je vous ai dit là les grandes conventions, mais l'État, il y a la directe, il y a la DDSPP, il y a. Je ne vais pas embêter tous les auditeurs avec, mais ce qui est important de mesurer, et c'est vrai pour la mission locale, mais c'est vrai pour beaucoup d'associations aujourd'hui, on est obligé de diversifier notre financement et nos financeurs. Et aujourd'hui, c'est une quarantaine de conventions différentes. Alors quand on dit, c'est qui derrière la mission locale, c'est 40 financeurs différents avec 40 obligations de résultats différents. Sur la question de la radicalisation, on a des obligations de résultats. Sur la question de la radicalisation, sur la question de l'emploi, on a des obligations. Alors, on est nouveauté de nos financements. Jusqu'à présent, on avait des subventions. On était payé pour faire le job et sans vraiment, effectivement, d'obligations de résultats. De plus en plus, et ça fait partie aussi des petites évolutions dans nos financements. Alors, c'est vrai pour la mission locale, c'est vrai là aussi. De plus en plus pour tout le secteur associatif, on se doit d'avoir des résultats. C'est une bonne chose. Ce qui est compliqué, c'est que, du coup, par exemple, la garantie jeune, on a une subvention de démarrage, mais si... pour l'illustrer, on doit rentrer une centaine de jeunes. Si on rentre que 90 jeunes, on sera payé que pour 90 jeunes. Et si on rentre que 90 jeunes et qu'il n'y en a que 50 qui trouvent du travail, on sera payé que pour les 50 qui ont trouvé du travail. Alors, c'est par un jeu de dégressivité des financements, mais oui, on est attendu sur le résultat, et aujourd'hui, on est même payé au résultat. Ouais.
Est-ce que vous arrivez justement à satisfaire tous vos financeurs, pardon ?
Alors oui, on arrive à satisfaire tous nos financeurs. On n'arrive pas à des résultats à 100%. Malheureusement, les 1300 jeunes qu'on suit, à la fin de l'année, ils n'auront pas tous du travail. Par contre, ils sont tous en parcours et oui, on a des étapes de ce que nous on appelle des étapes dans notre parcours pour chacun de nos jeunes. Alors certaines de nos étapes sont plus ou moins longues, plus ou moins dynamiques. On a des jeunes qu'on perd à un moment donné parce qu'ils sont en rupture, qu'on retrouve après. On en a parfois qui malheureusement font des détours par la prison, d'autres qui en sortent, d'autres qui sont en maladie. Donc voilà, il y a des ruptures de parcours qui ne nous incombent pas. Mais par contre, nous, on se doit d'être présents à chacune de ces étapes-là pour effectivement qu'il n'y ait pas de rupture ou quand elle y est, qu'on est présent quand ils veulent y revenir.
Alors peut-être, on a fait un peu le tour de ce qu'est la mission locale et de ses engagements. Peut-être quelques mots sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené en Lozère et d'où tu viens un petit peu.
D'où je viens et dans quelle étagère
C'est ça.
Alors, La mission locale, j'ai une histoire particulière avec la mission locale parce que quand j'arrive il y a 11-12 ans maintenant en Lozère, mon épouse qui à l'époque a trouvé du travail en Lozère, et donc moi je suis et je cherche du travail. Et donc mon premier réflexe c'est d'ailleurs d'aller à la mission locale. Et il n'y avait pas de poste en lien.
T'étais pas dans la cible des 15-25 quand même.
J'étais pas dans la cible des 15-25. Donc j'y vais en tant que conseiller parce que j'ai un parcours qui m'amène à travailler dans l'insertion. J'avais voilà un parcours de chargé de mission pour faire simple dans l'insertion et dans la jeunesse. Donc la mission locale était prédestinée, mais bon, pas de poste à l'époque. Et par contre, le directeur François Magdinier à l'époque me dit mais on est en train de réfléchir à la création d'une maison de l'emploi. Et donc là, j'ai mis toute mon énergie pour essayer d'être recruté et donc ce qui a bien fonctionné. Et donc j'ai été pendant 10 ans le directeur de la maison de l'emploi. Où là, il y avait tout à inventer. On a inventé le projet avec les élus, avec l'État, où on a créé des maisons de services au public, on les a coordonnées, on a créé des missions sur la clause d'insertion, on a créé du travail sur la question de la mobilité, et on a beaucoup travaillé avec Lozère Développement sur la question du numérique. Sur la maison de l'emploi, c'était une action forte pour professionnaliser et les acteurs et les personnes, d'une manière générale, en insertion sur la question du numérique. Et l'histoire a fait que le directeur de la mission locale est parti, était malade, l'histoire a fait que les deux structures n'étaient pas très loin, parce que moi, quand j'ai commencé la maison d'emploi, j'étais physiquement à la mission locale. Donc c'est une structure que je connais bien, l'équipe je la connaissais bien, le projet je le connaissais bien, le directeur on s'entendait bien. Et voilà, et notre gouvernance a aussi proposé pendant un temps de partager la direction. Donc j'ai été directeur de la maison d'emploi et de la mission locale. Donc c'était pendant 2 ans une période où je ne me suis pas ennuyé. C'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Mais bon voilà, la maison de l'emploi... Ces missions s'arrêtent parce que l'État a décidé d'arrêter le projet. Donc voilà, on finit doucement la maison de l'emploi.
Certaines missions qui sont reprises par d'autres partenaires.
Absolument, et notamment les missions essentielles. On a préservé l'essentiel, il me semble, avec la question du numérique, des clauses d'insertion et la coordination des MSAP. Donc Lozère Développement récupère la coordination des maisons de services au public,
le numérique.
Le numérique, bien sûr, puisqu'ils étaient déjà, on le faisait en partenariat. Et la clause d'insertion, le département a repris cette mission-là. Donc voilà, l'essentiel est maintenu. Donc ça, c'est important.
Bon, pour finir de te découvrir, il y a la question de tes engagements associatifs. Il y en a un... À 48 FM, on ne va pas le cacher à nos auditeurs. Hein. Tu es le secrétaire adjoint historique depuis...
Raison pour laquelle je suis venu les yeux fermés ce midi, en totale confiance. J'aurais dû quand même me renseigner un tout petit peu. Mais effectivement, j'ai le bonheur d'être administrateur à la radio. Alors, pas assez impliqué, et ça, voilà. Mais avec le peu de temps qui me reste. Mais voilà, je suis aussi au club de volley. Là aussi, avec grand plaisir, pas assez impliqué non plus, parce que force de vouloir faire plein de choses, on n'a pas assez de temps, mais j'ai aussi un intérêt, parce que sportif pour ce club, et envie de faire en sorte que la dimension bénévole, amateur, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'équipe une au volet, mais l'équipe une, elle est possible, et elle a du sens que s'il y a des amateurs dans ce club. Et voilà, moi j'ai à cœur de développer cette dimension.
Bien, merci Frédéric, on a bien fait connaissance avec toi. Je pense que c'était aussi intéressant de faire connaissance aussi avec la mission locale et avec ces missions. Je pense que c'est un élément important. Et tout de suite, la première chronique de notre émission avec Eric.
Loz Actuali.
Alors, la COP24, hein, oui, c'est bientôt.
La 24e conférence des Nations Unies sur le climat va démarrer dans une semaine en Pologne. La COP24 chez les rois du charbon. 24, déjà. Je ne me rappelle pas avoir vu passer la 22 ni la 23. Je m'étais arrêté à la COP21, moi, celle où Hollande avait réussi à sauver la planète. C'était pas vrai alors ?
D'ailleurs, dans le texte que tu nous as envoyé pour la préparation de l'émission, t'en étais resté à la 23e.
Oui. C'est ça. Ils ont dû refaire des nouvelles COP depuis. Et l'accord de Paris qui était historique. Alors, la grande victoire du quinquennat. Bon, c'est à cause des États-Unis tout ça. Ils se retirent et foutent tout par terre parce qu'ils sont le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde derrière la Chine. Ils ne supportent pas d'être deuxième, les Amerlocs. Alors pour avoir des chances de passer premier, ils étaient bien obligés de quitter cet accord. Mais alors, quel bilan depuis la COP21 ? Les espoirs ont fondu à la même vitesse que la banquise. Donc, pardon pour le peu d'engouement pour cette COP24. Là, on s'en fout un peu du réchauffement climatique depuis qu'on sait qu'on va tous crever au glyphosate. Oui, je sais, la planète se meurt. Il reste à peu près autant d'oiseaux que de partisans d'Europe Écologie Les Verts. Et ça, sans l'intervention de Nicolas Hulot. Si on résume bien, à la COP21, on a pris des décisions. À la COP22, on a pris la peine de vérifier que les décisions qu'on avait prises étaient les bonnes. À la 23, on s'est demandé comment faire pour les appliquer. Et à la 24, on va compter ceux qui sont encore là pour en discuter. Si ça marche, c'est un petit miracle. Au rythme où ça va, la COP39, il fera 45 degrés en novembre à Londres et le seul accord qui aura tenu sera celui sur le Brexit. Allez, heureusement que l'accord de Paris était juridiquement contraignant, sinon je n'ose pas imaginer la tête des ours blancs sur la banquise. Il n'est ainsi peut-être pas la peine de vous préciser que je n'attends plus grand-chose des têtes pensantes qui nous gouvernent, parce que si nous y réfléchissons bien, nous sillons la branche sur laquelle nous sommes assis et fermons les yeux. Le plus dur, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Donc je compte sur certains qui mettent déjà en œuvre des plans pour nous sauver, parce que nous ne sommes peut-être pas capables de le faire nous-mêmes. À l'heure où certains sont encore à se poser des questions, d'autres agissent et me donnent encore un espoir. Comme ce projet de bateau poubelle autonome appelé le Manta, qui permettra de récupérer les plastiques en mer et les détruire directement. En Équateur et en Bolivie, les droits de la nature sont inscrits dans la Constitution ou dans une loi qui consacre la terre-mère, Madre Tierra, et déclare le caractère sacré de celle-ci, posant comme nécessaire le principe de sa protection. En fait, c'est la Nouvelle-Zélande qui avait montré le chemin en dotant un fleuve d'une personnalité juridique. Au Portugal, une action a été entreprise par plusieurs enfants qui ont mis en demeure le Parlement de tout mettre en œuvre pour leur assurer un futur acceptable. En France, il paraît qu'un président normal faisait tous les soirs le tour de son château pour éteindre toutes les lumières. Bon alors moi je n'ai pas de château, mais j'essaye à mon tout minuscule niveau de réaliser 2-3 actions qui me donnent bonne conscience. Allez, je vous donne quelques exemples de mes actions pour sauver la planète. Déjà, ce qui me paraît le plus simple, je trie et je composte. Bon, j'ai arrêté Google en moteur de recherche, que j'ai remplacé par Ecosia. En fait, chaque recherche sur leur site génère des revenus publicitaires dont une partie est automatiquement affectée à la reforestation. Alors j'ai déjà l'impression d'avoir planté quelques centaines d'arbres. J'utilise également Lilo. Alors, sur Lilo, c'est un peu le même principe, sauf qu'à chaque recherche, génère des gouttes d'eau. Et vous pouvez donner ces gouttes d'eau à des entreprises engagées que vous voulez soutenir. Et ces gouttes deviennent de la monnaie sonnante et trébuchante. Donc c'est concret sans avoir à débourser un centime de son propre porte-monnaie. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a de nombreuses références comme une association de protection des animaux, un média sur l'écologie ou encore une asso qui vient en aide aux enfants malades. Et c'est tout de même 1 million d'euros qui a été reversé à ces projets en 3 ans. Je me suis également inscrit au site iboycott.org. Et ainsi, je ne fais plus mes courses dans une certaine enseigne, dont je ne citerai pas le nom, et comme cela, je ne finance pas la ferme d'Émile Vaux ou la pêche en eau profonde. Donc allez, agissons vite. En attendant, j'irai marcher pour le climat le 8 décembre. J'espère qu'on sera nombreux à faire suffisamment de bruit pour réveiller les consciences, même si au fond de moi, je sais que ce n'est pas suffisant, et qu'à force d'entendre tout le monde crier pour toutes ces causes, on a plutôt tendance à ne plus rien écouter. Mais si chacun amène sa petite pierre à l'édifice, alors là, ça commencera peut-être à bouger. Et vous, vous faites quoi pour sauver la planète ?
Moi, je suis végétarienne. Voilà, c'est déjà pas mal.
Oh là là, la question qui tue. ce matin, cette question a été posée aussi sur France Inter.
Et toute la semaine. Hein, toute la semaine.
C'est toute la semaine, c'est ça. J'aurais dû aussi réviser. Alors, je sais pas. J'ai envie de dire plein de choses, mais en même temps, pas assez. Vigilance sur la consommation, vigilance sur l'alimentation. Je pense que c'est important. J'essaye de... Peut-être la vigilance, malgré ma passion pour le curly, d'essayer d'aller plus à la Biocoop qu'il faudrait, en tout cas qu'on y va tous. Voilà, je pense que la question du manger bio, au-delà de la question de la santé, c'est aussi derrière ben, peut-être une culture un peu plus... qui respecte un peu plus la planète. Et voilà. Et puis derrière, si tu manges bio, tu fais du compost. Et voilà, il y a une espèce de cercle vertueux, au moins, sur cette question-là. Mais les curlis, c'est bon quand même.
Ouais, c'est toujours la difficulté, c'est de concilier les usages qu'on peut avoir et cette préoccupation-là et de faire en sorte d'essayer d'être de sur plein de petites choses de le faire. Moi, je vais au boulot à pied, par exemple. Hein. C'est vrai.
Ah ouais, moi aussi, mais alors j'habite à 50 mètres.
Oui, moi aussi, mais bon. Mais c'est un choix aussi. C'est un choix aussi d'habiter. Enfin voilà, avant, j'habitais à 30 km en faisant les allers-retours tous les jours. Forcément, c'est aussi.
Bien sûr.
Voilà.
Ouais, bon. Habiter en ville, je pense qu'effectivement, c'est une démarche aussi, et notamment en centre-ville. C'est important. Un truc important, je ne prends pas l'avion. Je suis complètement choqué. Que le kérosène soit pas taxé comme il devrait l'être, en l'occurrence. C'est mon côté gilet jaune anti-avion. Je pense qu'il faut qu'on, voilà, parmi les petits gestes, si on pouvait éviter tous d'aller en vacances en prenant l'avion, ce serait déjà pas mal. Et alors, tout le monde dit que c'est parce que j'ai peur de prendre l'avion. C'est sûrement vrai aussi, mais pas que.
En parlant de gilets jaunes, on espère qu'ils ne seront pas forcément là, à côté de la marche pour le climat. Parce que
ils seront avec nous.
Coup pour nous toutes, mais voilà, j'espère qu'ils seront
les
avec
gilets jaunes
nous,
seront avec la marche pour le climat, évidemment. Je fais un appel à tous les gilets jaunes. Moi, j'étais en réaction, bien sûr, comme beaucoup, et en même temps, j'ai arrêté d'être en réaction. Je vais être tolérant jusqu'à la prochaine manif pour le climat, en me disant que ma tolérance va payer et qu'on se retrouvera tous ensemble pour la marche pour le climat.
Ouais, donc c'est le samedi 8, samedi 8 décembre, rendez-vous à 15h.
À tout foirailler, de toutes les couleurs.
C'est ça.
Allez, première coupure musicale de cette émission, on est un petit peu en retard. Tu as choisi, Frédéric, Orelsan et des fêtes de famille. Tu veux en dire quelque chose ou...
Qu'en dire, non, elle me fait délirer cette j'ai pensé au gilet jaune d'ailleurs. C'est en pensant au gilet jaune que j'ai pensé à cette chanson où effectivement on a tous soit dans nos familles, soit dans nos amis des situations à qui on aimerait bien envoyer du feu, du bois. Lui, il le fait d'une manière d'une impertinence totale, et parfois on aimerait être aussi impertinent que lui.
Allez, c'est parti.
Rappeur de la famille, il nous ferait-il pas un petit rap?
Non,
allez, une chanson.
Aurélien, une chanson.
Son flow.
Ok.
Ok.
Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des blinis, danser sous les stroboscopes de Jiffy. J'ai préparé un petit speech parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille. Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. J'ai déjà envisagé des cousines, quitte à risquer le triso. Mais quand je vois la gueule de Delphine, qui sert à rien à part se plaindre, je comprends pourquoi son mec bourré préfère danser avec le chien. Si j'ai plus de 30 ans et je suis toujours assis à la table des enfants, c'est pour leur dire de se méfier de Christian quand il a de l'alcool dans le sang. Et parce que j'en peux plus d'entendre les plaques de cul des parents, je crois que papa baiserait maman sur la table si vous trouviez ça marrant. Vincent, t'as le même âge que moi, pourquoi t'es quand même plus vieux? Si vous n'avez pas peur de vide, regardez Muriel dans les yeux. Pardon, mais j'ai passé l'après-midi à gonfler des ballons dans une ambiance d'installation militaire imposée par le daron. Pendant que mon beau-frère récitait des clichés politiques avec passion, me regardait porter des cartons en tripotant ma frangine toutes les 3 secondes. Y'a pile le nombre de gobelets par personne, faut écrire vos noms. Parce que tata est le genre de crevarde qui lave les assiettes en carton. Tonton, si tu continues de faire yo-yo avec les doigts, chaque fois que tu passes à côté de moi, tu les utiliseras pour la dernière fois. Je t'en veux toujours pour quand j'étais petit et tu m'as secoué comme une pute. Si tu tenais à tes rétro, pourquoi tu t'es garé derrière le but? En parlant de pute, j'aimerais accueillir la nouvelle femme de Bruno. Si Caro m'écoute plus, c'est qu'elle met au point son prochain ragot. Pardonnez-la, elle serait pas comme ça si son mari la trompait pas. Ou peut-être qu'il la trompe parce qu'elle est comme ça. Je sais pas. Message à tous mes lointains cousins. Venez, on arrête de faire copain-copain. Parce qu'un ancêtre, on sait pas qui c'est. Et la seule chose qu'on a en commun. Un putain d'ancêtre qui devait brûler des villages et piller des baraques. À peu près à la même époque où papy baisait Jeanne d'Arc. D'ailleurs, papy, raconte-nous la fois où t'avais 9 ans et t'as tué Hitler. T'as jamais été un héros. T'étais même pas un bon mytho. Mon héros, c'était toi, Nico. Mais depuis que tu t'es mis avec l'autre conne un peu bonne, t'es juste un vrai beauf comme les autres. Merci Arnaud d'être venu te prendre en photo pour alimenter tes réseaux sociaux. Profiter d'être avec quelques prolos pour pouvoir encore plus jouer les bobos. Polo, si tu veux m'impressionner, c'est pas en roulant des joints compliqués, en utilisant beaucoup trop wesh pour un blondinet. Vu que ton père a un problème avec les Arabes, c'est une très belle ironie. Au passage, il a moins de chances de mourir du terrorisme que de l'alcoolisme. J'espère que Tati va bien attacher les mots, parce que son mari va rentrer au radar comme s'il avait une voiture autonome. J'avais plus de choses à vous dire, mais vos gueules d'enculés bouffis. J'arrive qu'à me demander s'il y a assez de porcs sur terre pour vous nourrir. J'aimerais finir en disant que peu importe les sourires, la fête au village, il a suffi d'un petit héritage pour qu'on voit vos vrais visages. Mamie, je t'aime. À l'année prochaine.
Allez, on poursuit cette émission avec la deuxième partie. On va parler de ce qui fait l'actualité de Frédéric Dumortier. Enfin, en tous les cas, comment le lien, hein, en tous les cas, avec l'actualité, avec cette manifestation qui a lieu en Lozère du 28 novembre au 1er décembre. Donc, cette fin de semaine, hein, c'est ça. Avec, donc, à l'espace Sentirouille, place du Forail à Mende, une manifestation qui se place dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire et dont le sujet est le lien social, ça ne sert à rien, point d'interrogation.
Petite provocation, effectivement.
Alors qu'est-ce que, déjà, on peut dire deux mots sur qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire et qu'est-ce que le mois de l'économie sociale et solidaire.
Ouais, ça c'est. J'espère qu'on a toute l'après-midi, effectivement, parce
non,
que.
Pas forcément, non, mais. Alors,
pour faire simple, l'économie sociale et solidaire, si je veux caricaturer, enfin, c'est le milieu, c'est les associations, les coopératives et les mutuelles. Une fois qu'on a dit ça, il y a notamment dans le milieu associatif des différences entre un syndicat, une association qui fait de la pétanque et puis
une radio,
une mission locale. Il n'empêche qu'on a tous la même gouvernance. L'idée qu'on n'est pas, on le fasse pas pour un gain financier. Derrière, moi, j'aime bien mettre la question du militantisme, de l'engagement. Alors, encore une fois, quand on fait de la pétanque, on n'est pas forcément un militant de la pétanque. Mais en même temps, il y a un engagement, on peut l'être. Et puis, il y a cette notion de, pour le coup, de lien social. S'il y a bien quelque chose qui crée un fil rouge, c'est quand même cette notion, on est avec d'autres et on fait sens avec d'autres. On ne fait pas sens seul dans l'économie sociale et solidaire. Peut-être que c'est ça qui résume le mieux. Alors, le mois de l'économie sociale et solidaire, mois de novembre... qui revient tous les ans, curieusement, le mois de novembre.
C'est l'occasion d'en parler.
C'est l'occasion d'en parler. C'est l'occasion de mettre, à travers une manifestation, à travers un événement, de faire un petit zoom sur cette économie qui, ne serait-ce qu'en Lozère, représente quasiment plus de 30% de notre PIB, si on devait faire le PIB de la Lozère. Finalement, on n'en parle pas si souvent. C'est le premier employeur lozérien. C'est une activité extrêmement présente qui structure réellement notre territoire. Et pour autant, elle n'est pas tous les jours dans le journal. Donc c'est l'occasion quand même de rappeler qu'effectivement, il y a du sens. Et si la Lozère, elle, c'est un territoire aussi beau, c'est aussi parce qu'il y a du lien social. Et qu'effectivement, l'économie sociale et solidaire est aussi présente, parce que c'est aussi une économie non polluante, par exemple, la plupart du temps. C'est pour beaucoup une économie de service. Et donc, voilà, c'est aussi tout ça qui est derrière l'ESS.
Alors, pourquoi cette provocation, le lien social, ça ne sert à rien ? Et quelle traduction dans le programme, finalement ?
Alors, pourquoi effectivement avoir besoin de provoquer aujourd'hui ? Ça fait quelques années qu'on, comme je dis, que tous les ans, ça revient forcément. Et on essaye de mobiliser un peu avec toute notre énergie et surtout notre légitimité. On est persuadé d'être légitime pour être visible à ce moment-là. Et en fait, on a un petit constat d'échec à chaque fois de pas être très mobilisateur, pas être très convaincant. Et donc, il y avait un peu cette idée, ben finalement, on sert à rien, quoi. Il y a un peu ça, il y a un peu le côté la Macronie peut-être qui nous a un peu cherché à une époque où le libéralisme prend un peu beaucoup de place. Où l'associatif, finalement, paraît pas être si important que ça. En tout cas, on lui fait pas une vraie place. Donc, il y avait un peu l'idée quand même de dire, bon, on existe. Et si on n'existait pas, si ce lien social n'existait pas, ce serait quand même plus compliqué que ça au quotidien, la vie de toutes et de tout à chacun. En aparté, on parlait effectivement des gilets jaunes qui nous occupent beaucoup dans les médias et dans nos discussions de café. Mais c'est ce qui gêne un peu, c'est cette côté individualiste et le lien social. C'est tout sauf ce côté individualiste. Et on en a besoin. On en a besoin tous. Le service public, le travail des associations. S'il n'existait pas, je pense que notre vie à tous serait pas la même et serait pas aussi belle et confortable.
Oui, mais moi je le vois, par exemple, je fais partie du club de basket, mais on est beaucoup à venir de l'extérieur de la Lozère. La première chose qu'on fait, enfin, que plusieurs d'autres ont fait aussi, c'est de s'inscrire au club de basket ou à un autre club ou à autre chose pour commencer à rencontrer du monde, ouais, pour ne pas se retrouver tout seul. Bien sûr, on a tous besoin. Ouais.
On a besoin de ça, c'est l'essence même de l'humain, d'être avec l'autre. Mais être avec l'autre aujourd'hui, c'est. Alors déjà, ce n'est pas si simple. Et puis, c'est comment on est avec l'autre. On peut être dans différentes situations. La plupart du temps, aujourd'hui, on est dans des liens hiérarchiques avec l'autre, soit en dessous, soit au-dessus. Ce n'est pas les mêmes que celui qu'on peut créer dans un club de sport, dans une association de radio. On invente un autre lien que celui que le lien hiérarchique. Et c'est quand même ça qui fait qu'il peut s'y avoir derrière de l'amitié, de la rencontre, du sens dans ce qu'on fait. Sens dans notre vie, tout simplement.
Est-ce que c'est plus compliqué de créer ce lien dans un territoire rural comme la Lozère ?
Non, c'est presque plus facile. Alors, c'est plus facile de créer du lien global qu'à Marseille, où finalement, on est tellement d'un quartier à un autre.
Un au milieu de la masse.
C'est ça, on fait partie au mieux d'un quartier. Là, on a cette identité quand même départementale. Qui, alors même si à Florac, c'est pas les mêmes que sur la Margerite, on n'est pas. Mais il y a, en tout cas, dans le travail associatif, la possibilité d'être plus en lien, il me semble. Et il y a une espèce d'obligation dans notre territoire rural à créer ce lien. On ne peut pas travailler seul, encore moins qu'ailleurs. C'est plus facile. Moi, je vois en tant que responsable associatif, j'ai des liens avec les élus qui seraient bien plus faciles, et donc avec les décideurs, bien plus faciles que, encore une fois, sur un autre territoire. Et j'ai des liens aussi bien plus faciles avec les jeunes que je rencontre dans la rue, que je vais re-rencontrer dans mon club de sport. Donc tout ça ça crée du sens, du lien. Donc je crois que c'est plus facile sur notre territoire. Après, il faut l'entretenir. Et c'est pas parce que c'est plus facile qu'il faut pas être vigilant pour le maintenir, la dynamique. Parce qu'en même temps, on est moins nombreux. Et donc, l'innovation est moins facile. Donc, on est. Voilà, il y a une proximité, certes, mais le fait qu'on soit moins nombreux, des fois, rend la dynamique un peu plus difficile. On le voit sur nos rencontres de l'ESS, on fait la même chose à Montpellier, on va avoir 100, 250, 250 personnes. Tout de suite, à 250, si on prend une petite salle, on se débrouille bien, ça fait un effet foule. Nous, quand même, avant de faire effet full et dynamique, il faut une toute, toute petite salle, ou alors mettre énormément d'énergie. Ce qu'on fait là, et ce qu'on espère faire avec, avec cette semaine-là. Du coup, on a aussi, avec cette semaine, pour y revenir concrètement sur le programme, on a cassé l'idée d'un événement majeur, et on s'est dit, et c'est aussi ça la réalité du lien social en Lozère, c'est plein de petites actions. Finalement, c'est beaucoup d'acteurs et qui font 10, plus 10, plus 10, et qui font que au cours de la semaine, on aura peut-être 100, 200 personnes qui seront venues. Alors certes, on n'aura pas eu un événement où on se sera tous réunis, mais il y aura eu dans un lieu du passage, du brassage, du partenariat qui va se créer, parce que justement, il y a plein de gens différents qui se seront rencontrés. Et le lieu est cette année un peu symbolique. Alors là, effectivement, je vais assumer un peu cette paternité. Ça se fait au tiers-lieu solidaire, qui est à l'Antirouille de la ville de Mende. Et depuis cette année, donc la mission locale et la ville, soutenue par la Fondation Orange, mais du coup avec plein d'autres partenaires, on associe le département, on y associe d'autres associations, des associations numériques, NumenCop. On essaye de faire sens autour de ce lieu qui, au-delà de la question du lieu, est un lieu qui doit créer de la communauté, qui doit créer du lien social. Le numérique, finalement, n'est qu'un prétexte à la rencontre. Et du coup, c'est chouette qu'on ait plein d'opérateurs, plein d'acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs numériques. On commence la semaine avec les jardins de Cocagne. On va parler légumes, on va partager une soupe, on va parler maraîchage. Mais voilà, et pourquoi pas d'ailleurs parler soupe avec un geek, parce que le geek, il aura envie de mettre, il va avoir adoré la soupe, il va mettre la recette, il va créer le blog, il va mettre sa recette. Voilà, il y a du lien dans tout. C'est l'idée de créer du lien dans tout et que tout est un peu dans tout.
Alors, on va peut-être faire un petit focus sur les événements qui sont sur lesquels la mission locale est directement impliquée. On commence mercredi avec une après-midi open job. Alors, il va être question d'usage des outils numériques pour la recherche d'emploi, c'est ça ?
C'est ça. On avec cet open job qui a lieu toute l'année, hein, mais du coup, on fait un petit zoom cette semaine-là. L'idée, c'est d'aller vers les jeunes. Là aussi, plutôt que d'attendre qu'ils viennent à la mission locale, on va sur leur terrain de jeu, qui est l'Antirouille, et avec des outils numériques, on travaille la question de leur recherche d'emploi. Aujourd'hui, chercher du travail sans maîtriser les outils numériques, c'est totalement illusoire. Les CV se font bien sûr en ligne. Aujourd'hui, on réfléchit même à des CV vidéo, qui pourraient être des CV un peu originaux. Les entreprises publient aujourd'hui un peu partout. Les offres, elles ne sont pas que à Pôle emploi, elles sont sur Le Bon Coin, elles sont bien sûr à la mission locale, mais elles sont sur Facebook. Donc, on se doit d'être hyper réactif, et notamment sur la toile. Et voilà, c'est un peu le sens de cet accompagnement-là. On va vers les gens, vers les jeunes, et on utilise aussi leurs outils à eux, leurs smartphones. Voilà, ils sont assez agiles sur les smartphones pour faire des jeux ou de la publication Facebook, qui s'en servent aussi pour leur insertion.
Là, c'est quoi ? C'est un atelier ? C'est une conférence ?
C'est des ateliers.
Des ateliers.
Toute la semaine, on a souhaité que ce soit participatif. On n'a quasiment jamais de descendants. On est sur du partage. Donc, toute la semaine, tous les gens... Alors, on amène du contenu, mais l'idée, c'est que ce contenu soit partagé, participatif, collaboratif. On est vraiment dans cet esprit-là. On sort de la dimension conférence. On ne veut plus ça. Plus personne ne veut ça, je crois, aujourd'hui. On doit avoir encore quelques savants qui peuvent nous donner la bonne parole, mais les gens, ils ont besoin de participer, ils ont besoin d'être acteurs de la décision. Et ce qui... Il faut même de plus en plus bousculer les gens pour les amener à ce qu'ils soient acteurs de ça.
Justement, j'avais demandé, faut qu'ils soient volontaires, là, ou est-ce que vous pouvez, sans les obliger, les inciter fortement à venir, ceux que vous suivez dans la mission ?
Pour les jeunes de la mission locale, il y a cette incitation à la participation. Tout à l'heure, je parlais de lien collectif, c'est vraiment ça, cette dimension. Il y a quelques années, on voulait faire du collectif, on sentait que c'était ça qu'il fallait. On invitait nos jeunes, ils ne venaient jamais. Là, il y a effectivement une espèce d'un peu d'obligation au collectif. Une fois qu'ils ont démarré, ils ne veulent plus en sortir. Le groupe fait sens, mais il y a une petite... Il faut s'obliger. Et une fois qu'on y est, ça marche. J'aurais pas dû soutenir autant l'équipe de volley.
Oui, t'es en train de perdre un peu ta voix. Autre rendez-vous vendredi sur la mobilité européenne et internationale.
Ouais, ça, c'est une nouvelle offre de service pour la mission locale. On croit beaucoup en la mobilité. Alors, la mobilité, c'est de Villefort à Mende, mais c'est aussi de Mende à Athènes. Et en l'occurrence, là, on a un partenariat avec la Maison de l'Europe. On est soutenu par l'État pour se développer, pour monter en compétences et pour pouvoir envoyer des jeunes à l'étranger. Et là, en particulier, on a un programme qui va permettre à des jeunes lausériens de partir en Grèce.
Ils partiront comment ?
Partiront
en avion ?
Alors malheureusement, ils vont devoir partir en avion. Il faudrait que je leur trouve plus de temps pour partir avec eux
en train,
ou en bateau. Moi, j'y suis allé en bateau la dernière fois en Grèce.
Ouais,
en
bateau, je suis pas sûr que ce soit moins...
C'est un joli périple. Ouais, c'est pas sûr que ce soit beaucoup moins polluant. A priori, oui, mais...
Ça dépend. Bon, mais bateau
ça dépend aller, du bateau. Voilà. Bon, ils partiront certainement en avion. Mais pour 2 mois, ils y vont pas une semaine. Ils y vont un minimum 2 mois et là-bas ils vont créer du lien, ils vont apprendre. Alors comme ça spontanément on dit mais pourquoi la Grèce, parce que a priori on va pas parler grec beaucoup, ils vont pas s'en servir. Alors c'est vrai, mais ils vont essentiellement parler anglais en Grèce dans des dispositifs, et ce qui est un peu plus facile finalement parce qu'ils vont rencontrer non pas des anglophones mais des collègues qui feront l'effort aussi pour communiquer, aussi de parler anglais. Et du coup, on sera sur des anglais approximatifs qui fera que ça sera aussi plus facile.
Il y a combien de jeunes qui doivent partir ?
Alors, on a 4 jeunes qui doivent partir cette année. L'année prochaine, 8. Et on va essayer de monter comme ça en volume pour pouvoir effectivement... parce que les 4 jeunes qu'on a envoyés l'année dernière, il y a des super retombées sur leur insertion. Ils ne sont pas revenus les mêmes. Vraiment, ils sont revenus hyper dynamiques. Ils ont cassé aussi... une image qu'ils avaient d'eux, et ils se sont sentis capables de faire des choses à partir de ce voyage-là. Donc c'est vraiment très très intéressant cette mobilité. Donc là, l'idée du 30, c'est d'inciter des jeunes à venir se présenter à nous et à les accompagner. Et là, c'est un peu du clé en main, parce que l'idée, c'est pas d'avoir des jeunes qui sauraient partir seuls, c'est d'offrir ce voyage à des jeunes qui n'auraient pas fait le voyage seul, qui n'aurait pas, se serait pas senti de le faire.
Oui,
tout seul.
Pour ceux qui se sentiraient de le faire, il y a plein de dispositifs que propose et sur lesquels peut conseiller aussi la Maison de l'Europe, avec le service volontaire européen, avec aussi, j'ai perdu le Discover EU, avec le billet de train qui permet de visiter l'Union pendant. Enfin voilà, donc il y a plein de dispositifs qui sont possibles et que pourront relayer. Qui pourrait être relié à ce moment-là. Peut-être un petit retour en arrière, c'était hier lundi, un barcamp, alors un moment de formation un petit peu, c'est ça ?
Un moment de formation.
Pour le conseiller 3.0.
Alors, qu'est-ce que c'est que le conseiller 3.0 ? Alors là, c'est le conseiller de la mission locale, c'est le conseiller de Cap Emploi, du département, c'est l'assistante sociale du département, le conseiller de Pôle Emploi. Aujourd'hui, mais ça revient un peu à ce qu'on a dit, on ne peut plus travailler sans le numérique. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas pour autant qu'on est aguerri à ces usages. Est-ce qu'on sait faire de la veille ? Est-ce qu'on sait faire de l'outil collaboratif ? Est-ce qu'on sait accompagner les usagers ? Aujourd'hui, l'accès aux droits de l'usager passe par le numérique. On ne peut plus s'inscrire à Pôle emploi autrement que par du numérique. Une fois qu'on a dit ça, il faut accompagner les gens pour qu'ils y arrivent. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. On appelle ça de l'illettrisme. On a tendance à oublier qu'on a des gens illettrés. Mais on a des gens illettrés, certes, encore, mais on a aussi des gens qui ont cette problématique d'illettrisme sur le numérique. L'accompagnement est plus que nécessaire. Et il faut que nous, professionnels, on monte en compétence sur cette question du numérique, d'où ce petit clin d'œil 3.0. Et le backend, c'est l'idée qu'on n'a pas inventé, on n'est pas venu ce jour-là leur dire... les bonnes pratiques, on a travaillé ensemble et tout le monde a réfléchi à vers quoi il fallait aller. Donc il y a des choses très intéressantes qui sont sorties de cette journée.
Et merci de cette présentation de ces moments. Le lien social, ça ne sert à rien, du 28 au 1er décembre. On retrouve ça sur le net, ça sera sur la page Facebook de Los Actuali, on le mettra.
Une dernière question justement par rapport à ça, c'est ouvert à tout le monde ou...
C'est ouvert à tout le monde et de 7 à 77 ans, c'est comme pour Tintin. Il y a la Maïf qui va préparer proposer des jeux autour du handicap. On va, le mercredi après-midi, on joue. Il y a beaucoup de jeux et des jeux différents. Comment jouer, notamment jouer d'une manière collaborative et non pas il y a toujours un gagnant et un perdant. C'est aussi une nouvelle manière de voir les choses. On travaille beaucoup autour de l'agriculture. On va travailler autour de la réforme de la formation professionnelle. Il y a beaucoup de choses cette semaine-là. Il faut vraiment prendre le temps de regarder, de passer. À un moment donné, il ne s'agit pas de venir toute la semaine, mais il y a des temps qui sont des temps forts, intéressants. Et au pire, si vous n'avez pas eu le temps, vous venez samedi midi, on boit un verre à la sortie du marché, ou avant ou après. Et là, on prend le temps de discuter autour de la question du lien social. Les élus viendront, ça sera un temps d'échange qui sera aussi sympa. Il y aura une buvette tenue par des étudiants. Voilà, le samedi au pur, si vous avez raté parce que vous travaillez, ou vous pouvez venir samedi matin et jusqu'à midi, on aura un temps comme ça de rencontre autour de la question du lien social qui sera sympa.
Bien, allez, tout de suite, la chronique de Léa, et puis on rappellera les dates et le lieu tout à l'heure à la fin de l'émission. Tout de suite, la chronique de Léa.
Loz Actuali.
Alors, TikTok, qu'est-ce que c'est ?
Après les hand spinners, voici venue l'heure de TikTok. Alors, TikTok, c'est quoi ? Tu le demandes. C'est une application gratuite, très populaire chez les jeunes et qui compte plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde entier. C'est aussi l'appli la plus téléchargée de tous les temps, dépassant et de loin Snapchat et Facebook. On la compare également souvent à ses prédécesseurs Musical.ly et Vine. Et pour les plus de 30 ans que j'ai déjà perdu, voici une petite explication. Donc, pour vous, pour tout le monde autour de la table. Une petite explication du phénomène TikTok. Le but de l'application, d'abord, se filmer en train de chanter en playback sur un court extrait de chanson ou de réplique de film, tout en se mettant en scène. 15 secondes que l'on peut personnaliser sur l'application TikTok. Rien de très novateur, sauf peut-être pour vous autour de la table, me direz-vous. Puisque...
Oh, ça suffit, quand même.
Puisque l'application ne fait que reprendre des codes déjà bien connus d'autres applications tombées dans l'oubli. Mais alors pourquoi est-ce que TikTok résiste et comment expliquer cette popularité ? L'appli n'a pas popé comme par magie sur l'Apple Store, non, elle fait partie de la compagnie chinoise Musical.ly, dont elle est longtemps restée dans l'ombre. Et alors que sa jumelle s'écroule, l'essor de TikTok commence. Et ce qui fait tout de suite le succès de la plateforme, ce sont les challenges. Reprendre les danses du jeu Fortnite, là aussi vous n'avez pas la référence.
Si.
Merci Guillaume. Répondre en vidéo à une autre vidéo ou chanter en playback sur certains morceaux, tout y passe et ça marche. Les jeunes se prennent au jeu, l'application conçue de manière ergonomique et ludique bénéficie également du monopole et des fonds récoltés par Musical.ly dans ces belles années. Petit à petit, TikTok s'installe, même sur le géant YouTube à travers la pub, et devient le sujet phare de nombreux créateurs. Normal, sur ces deux plateformes, la cible a souvent un âge identique, mais l'application est-elle pour autant immortelle ? Car sur Internet, peu de choses le sont. Sur l'application, on retrouve d'ailleurs de moins en moins de challenges et de plus en plus de polémiques. Une fonctionnalité de la plateforme, j'en parlais tout à l'heure, permet en effet de réagir directement à une vidéo avec une autre vidéo. C'est ainsi que de nombreux enfants se retrouvent victimes d'harcèlement après avoir posté leur création. Les enfants sont également au cœur d'une deuxième polémique qui enfle jour après jour. L'application est majoritairement utilisée par les 10-15 ans, mais elle n'est évidemment pas interdite aux adultes. Et si beaucoup se sont inscrits pour poster des odes au malaise intergénérationnel, d'autres comptes n'existent que pour consommer. Et malheureusement, cette consommation vise en règle générale de jeunes, très jeunes enfants. Bercées dans l'hypersexualisation de leur star préférée, certaines petites filles n'hésitent pas à se déhancher en brassière et shorty devant la caméra. L'algorithme est, malheureusement pour elles, très bien conçu. Une fois que vous avez sélectionné ce genre de vidéos, celles qui vous seront proposées par la suite, par la plateforme, seront sensiblement identiques. Une véritable playlist pour les pédophiles, donc, malheureusement, aidée par une charte d'utilisation plus que floue. C'est une pratique que l'on retrouve évidemment partout sur les réseaux sociaux, mais qui n'a jamais été aussi désinhibée que sur cette application. Je pense honnêtement que les beaux jours de l'application TikTok sont derrière elle et qu'un trou noir ne pourrait pas être plus vide niveau contenu que cette plateforme. Mais saluons tout de même le départ de ce mastodonte du cringe, ça c'était un petit anglicisme pour mon ami Eric, en espérant que le prochain soit encore pire, hein. Moi ça me fera toujours une nouvelle chronique à écrire.
Merci Léa, et tout de suite le portrait chinois.
Loz Actuali.
Allez, on commence ce portrait chinois pour Frédéric avec un animal.
En fait, je ne vais pas répondre à celui-là. J'aime pas les animaux.
T'aimes pas les animaux.
Je vais assumer le fait que je suis incapable de vous dire quel est mon animal préféré.
D'accord.
Parce que j'ai, voilà, j'ai un souci avec les animaux. J'ai envie tellement de mettre de l'énergie dans la rencontre de mes semblables que j'ai plus d'énergie pour les animaux. Donc je suis désolé pour eux. Ce sera sans animal.
Un loisir.
Un loisir, je vais obliger d'assumer Emma
la chasse.
Voilà, la chasse. Ça pourrait, mais non. Parce que je les aime bien, en même temps, ils ne me dérangent pas. C'est juste que, voilà, on n'a rien à se dire, mais ils sont bien quand même. Le volet, j'ai réussi à convaincre mes trois filles à faire du volet, moi-même, et puis j'en ai perdu ma voix ce week-end. Donc.
Un endroit préféré en Lozère ?
L'Aubrac.
Un endroit préféré dans le monde ? Sans avion ?
Alors, sans avion, du coup, Paris, pour moi, c'est comme une ville magique.
Une drogue favorite ?
Ma drogue favorite, fut un temps, c'était le travail et c'était pas une bonne drogue. Et donc, j'essaye d'en sortir. Le curly.
D'accord. Une citation ?
Alors, la citation, ça, c'est la plus dure, mais il y a quelque chose qui dit que pour être convaincant, il faut être convaincu. Et j'aime bien cette idée. Et j'aime bien aller chercher de convaincre en étant convaincu.
Une qualité, un défaut ?
Ça, c'est difficile. Hein. Je passe mon entretien d'embauche. Et puis, mes défauts, je suis beaucoup trop bavard. J'ai un problème dans mes agendas. Et ça, comme ça, c'est une excuse pour tous les gens qui écoutent la radio et qui en peuvent plus que je sois en retard. J'ai du mal avec mes agendas.
Plat préféré ?
Plat préféré, j'aurais pu dire la lasagne, mais j'aurais une petite préférence aujourd'hui pour le poulet coco de mon papa.
Un verbe ou un mot ?
Un verbe. Aimer.
Un héros de fiction ?
Un héros de fiction, j'ai pas.
C'est pareil.
C'est Guillaume, mon
héros. Non, je ne suis pas de fiction. Je ne suis pas une fiction, je suis bien réel.
Non, j'ai Plage Man. Qui est un héros de BD que j'aime bien. Et puis comme ça, voilà. L'occasion de
parler de BD, puisque
de parler
tu es
de BD,
aussi un fan de BD. Et un rêve ?
Un rêve, un peu plus de solidarité, et puis globalement un peu plus de solidarité autour de nous, et plus égoïstement que mes filles soient heureuses.
Et puis un morceau musical, le deuxième coupure musicale. Est-ce que c'est à cause d'une série sur une grande plateforme
de... Non, c'est pas à cause de. Alors j'ai bien aimé cette série, mais Bella Ciao, c'était un clin d'œil au militantisme, à la résistance. Et donc c'était aussi mon choix. Alors je sais pas si tu l'as trouvé, mais c'était pas effectivement les derniers Bella Ciao qui sont sortis. C'est un Bella Ciao que j'aime bien. Je sais pas si c'est celui-là qu'on va pouvoir
écouter. Je sais pas, c'est une version de Thomas Fersen qui est annoncée, mais
voilà, c'est ça.
Mais donc,
c'est ma version préférée.
Mais je sais pas si c'est vraiment la dernière version. Si c'est pas une des dernières versions, on va voir, on écoute.
Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, Tumi devi seppellir, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fiore. E questo è il fiore che è partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Actuellement. Voilà, Léa est rentrée juste pile poil à temps sur la fin de la chanson. C'était parfait. On fera la chronique hashtag juste après. On va commencer avec la revue de presse parce qu'il faut qu'on libère Eric. Et donc, je te laisse la parole parce que c'est trop dur à dire.
Non, c'est simple, c'est Oumuamua.
Voilà.
Ça avait été repéré par un télescope à Hawaï. C'est le premier objet détecté venant d'un autre système stellaire. Alors, plusieurs théories ont été développées, mais vous le savez déjà, puisque je vous en ai parlé il y a quelques mois. Alors, mais Oumuamua refait parler d'elle ou de lui. On ne sait pas très bien encore, le truc se cherche. Donc, deux chercheurs de Harvard ont réalisé une nouvelle étude scientifique et ils affirment que c'est une sonde totalement opérationnelle envoyée volontairement près de la Terre par une civilisation extraterrestre. Alors, ils ont donc écrit un article publié dans la revue Astrophysical Journal Letters. L'idée a rapidement enflammé Twitter et la communauté scientifique. La raison justifiant cette hypothèse est que Oumuamua se déplace à une vitesse plus rapide qu'attendue. D'où le recours à cette explication, c'est une sonde propulsée. Imaginez ça, une sorte de vaisseau avec une voile solaire invisible. Ah, mais d'autres scientifiques rejettent cette théorie. Ah, les grincheux ! Car aucun signal artificiel n'a été trouvé venant de ce truc. Alors, il faut bien comprendre que pour les scientifiques, l'idée la plus folle est toujours plus publiable du moment qu'il existe une chance infime qu'elle ne soit pas fausse. Alors, Avi Loeb, chef du département d'astronomie d'Harvard, reconnu et classé parmi les 25 personnes les plus influentes en astronomie, a expliqué que l'humanité risque de rester longtemps dans l'ignorance la plus totale, car Oumuamua s'éloigne de la Terre et ne reviendra pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce cher professeur est également impliqué dans un projet financé par un milliardaire russe qui vise à mettre la main sur des intelligences extraterrestres, mais aussi sur la découverte de nouvelles planètes pouvant accueillir des humains. Alors pour pouvoir continuer à être financé, ce petit malin a profité de la première occasion pour nous glisser une partie de sa théorie. Voilà, mais il n'a pas réussi à deviner le but d'Oumuamua, car cela, seul l'avenir nous le dira. Ou pas.
Merci Eric. Comme quoi,
même les scientifiques arrivent à nous glisser des fake news.
Alors moi, je vais juste rebondir avant de donner la parole à Léa, parce que j'ai deux petites propositions. Et un article notamment du Huffington Post sur l'histoire de InSight, la sonde qui s'est posée sur Mars hier soir, et avec un outil qui a été développé par des Français, hein, qui est le sismomètre CEIS, qui est posé dessus. Et en fait, ce sismomètre qui est sur cette sonde a eu des problèmes de conception en 2016, ce qui fait que le projet a été retardé de 2 ans, puisqu'il fallait trouver le moment où les planètes étaient les plus proches pour pouvoir envoyer la sonde. Et donc maintenant, on attend les résultats de ce sismomètre qui a été conçu par le CNES notamment, et une filiale d'Ariane Group. Donc voilà, vraiment une jolie histoire aussi de cette recherche, voilà, sachant que c'est un projet qui mobilise des sommes monstrueuses, hein, 146 millions d'euros pour un objet. Je crois que c'est un des objets les plus chers qui a été 166 pardon 166 millions d'euros. Voilà, sachant que il y a d'autres objets, enfin d'autres instruments qui sont sur cette sonde, un instrument notamment allemand et un instrument américain. Et donc bah, tous les outils ont attendu que le projet français se mette en œuvre pour permettre que tout fonctionne. Et ça a permis aussi pendant ce temps-là de perfectionner et d'améliorer les autres outils qui eux aussi avaient des petites limites. Donc maintenant on attend de voir bah, tous ces résultats qui permettront bah, d'en savoir un petit peu plus sur la planète Mars. Voilà.
Quand on aura détruit notre planète, est-ce qu'on pourra y vivre ?
Faut attendre les résultats, Eric.
Voilà, Léa, maintenant à toi.
Oui, on reste dans la science-fiction, ou presque. Un mammouth pourrait être amené à la vie d'ici 2 ou 3 ans. Voilà, principale occupation scientifique. Mais pas n'importe quel mammouth, s'il vous plaît, un mammouth laineux. Qu'est-ce que ça change, me demandez-vous ? Absolument rien, mais c'est ultra classe. C'est le National Geographic.
C'est celui de le mammouth laineux, c'est celui de...
C'est celui dans l'âge de glace, voilà, par exemple. C'est ça. Mais oui, c'est celui-là. Mani, rien que pour vous, en 2018.
On a les références qu'on mérite.
Écoute, hein.
Vache.
Nous, c'est France Culture. Bref, c'est le National Geographic qui nous révèle cette grande révolution scientifique dans un entretien avec Ben Mezrich, spécialiste, s'il vous plaît, du mammouth laineux. Ça ne s'invente pas. Alors Ben, comment fait-on pour ressusciter un mammouth ? Eh bah, ben, tu mélanges de l'ADN de mammouth et d'éléphant et t'as un mammouth. Est-ce que le reste de la conversation est importante ? Non, absolument pas. Et pourquoi ? Mais parce que les gars vont ressusciter un mammouth. Est-ce que vous avez envie de vous épancher 300 ans sur des questions morales, scientifiques ou éthiques ? Non, absolument pas. Moi, je veux bien accueillir la manif pour tous dans ma rue tous les dimanches après la messe si je peux avoir un mammouth. Mon film préféré, c'est Jurassic Park et le mec est juste en train de me dire qu'on peut non pas seulement récupérer de l'ADN, mais la composer, on peut recréer des gènes. J'ai fait un bac L et même moi, je sais que c'est fou. C'est une info d'autant plus importante qu'on est en plein milieu de la 6e extinction de masse. Si les scientifiques arrivent à recréer des animaux viables, désolé Eric, c'est l'avenir de plusieurs centaines d'espèces qui pourraient être préservées, en plus, évidemment, du mammouth laineux.
On pourra en manger ?
On pourra tout faire, on pourra tout faire.
Arrêtez avec les animaux.
À noter aussi qu'il a été annoncé que, vraisemblablement, en Chine, il a été annoncé ce matin... qu'il y avait potentiellement des jumeaux.
Oui, alors qui, ça, c'est un autre
délire. À suivre, hein, mais ça renvoie des questions justement.
Voilà, des jumeaux quoi ?
Justement, nés
de.
Non, voilà, non, des jumeaux nés de. Bah, de
artificiellement.
Ça aurait été la politique de l'enfant unique.
Voilà.
Oui, mais ils sont résistants au VIH, semblerait-il.
En plus.
Voilà. Et aux radiations, et ils crachent des flammes.
Bon, voilà, on va libérer Eric qui doit nous quitter pour aller travailler. Juste, moi, je j'avais moi juste un dernier article aussi à vous citer sur Libération et sur l'appli checknews.fr qui permet justement de répondre à des questions avec un traitement journalistique à des questions posées par les lecteurs. On a eu beaucoup de débats dans cette question autour des gilets jaunes, etc., sur finalement, est-ce que les véhicules électriques polluent pas plus que les véhicules thermiques. Alors vous avez j'ai fermé ton micro.
Eric, t'es parti.
J'ai dit, ça dépend de la réutilisation.
Comment faire en sorte qu'Eric ne n'aille pas travailler, tu parles écolo.
Ça dépend évidemment de leur utilisation, ça dépend aussi de la façon dont l'électricité est produite. Et ben, je vous incite à lire ce petit article assez bien fait de Libération qui permet justement de prendre un peu de recul sur aussi ces messages qui circulent un peu sur la toile voilà, par rapport à tout ça. Avant de se quitter, bah, je vous propose de retrouver tout de suite la rubrique hashtag et on va retrouver Bastien avec qui je l'ai enregistré hier. On se retrouve avec Bastien pour le hashtag du moment, enfin peut-être même les hashtags du moment.
Les hashtags du moment, oui. Alors tout d'abord, le premier hashtag qui a fait beaucoup parler, c'est « Balance ton gilet jaune », donc le nouveau hashtag qui dénonce les dérives des manifestants. C'est pourquoi la twittosphère s'enflamme contre les gilets jaunes sur le modèle du « Balance ton porc ». Deuxième hashtag qui a secoué la twittosphère, c'est tous les professeurs. Hein, on se souvient tous d'un professeur de français qui nous a donné envie de dévorer des livres ou d'un enseignant d'histoire qui nous a transmis sa passion de vieille pierre. Donc c'est pour leur rendre hommage que les collaborateurs du projet Voltaire, un service en ligne d'apprentissage de l'orthographe, lancent ce mercredi le hashtag Merci Prof sur Twitter. Donc le principe est simple, pour remercier vos professeurs préférés, munissez-vous d'une pancarte, inscrivez-y leur nom et leur classe et l'établissement dans lequel vous étiez et partagez ce geste sur Twitter. Le troisième...
Ça fait un écho à...
Il y a deux semaines sur...
Voilà, pas de vague.
Le hashtag pas de vague, exactement. Donc là, c'est toujours pour remercier nos professeurs. Et donc le nouvel hashtag également, c'est sur les infirmières, hein, puisqu'elles étaient en grève mardi dernier. Donc sur Twitter, ces soignants donnent de l'écho à leur mouvement social sous le hashtag de infirmières oubliées. Donc une formule qui colle avec leur impression d'être les grands oubliés du plan santé d'Agnès Buzyn. Infirmiers et infirmières sont des milliers à manifester partout en France à l'appel de plusieurs organisations syndicales et cela devrait se poursuivre. Alors qu'ils soient libéraux ou salariés, les infirmiers partagent une souffrance et une perte de sens dans tous les secteurs, à en croire hein, Nathalie Depoire. Selon elle, elle cite, les cas d'épuisement professionnel se multiplient à l'hôpital. Alors il y a vraiment un sentiment largement partagé par message sur Twitter. Quatrième hashtag, toujours dans l'actualité, hein, c'est il y a quelques jours dans le comté de Cork en Irlande, un homme de 27 ans a été déclaré non coupable de viol sur une jeune fille de 17 ans. La raison de cet acquittement, la jeune fille aurait été consentante puisqu'elle portait un string en dentelle. Alors les jours qui ont suivi, les Irlandais sont descendus dans les rues de Dublin et le hashtag This is not consent prend les réseaux sociaux d'assaut. Alors malgré la décision de juge de considérer l'argument du string comme étant éligible, cet avis n'est pas du tout partagé sur la toile. Rapidement, un mouvement s'est créé pour s'y opposer. Des milliers de femmes ont partagé sur les réseaux sociaux des photos et illustrations de sous-vêtements pour protester et faire comprendre que la lingerie n'est pas un consentement ou une invitation à quelconque acte sexuel. Et ensuite, le dernier hashtag, hein, c'était le hashtag Nous Toutes, puisqu'un rassemblement d'une ampleur inédite a été produit en même temps que les Gilets jaunes ce samedi 24 novembre pour marcher contre les violences sexistes et sexuelles. Alors à grand renfort de musique et de slogans « Ras le viol », le cortège a convergé vers la place de la République, gonflant ses rangs à mesure de son avancée. Alors qu'à quelconque centaine de mètres de là, la manifestation des Gilets jaunes a dégénéré depuis longtemps déjà. L'ambiance était autrement plus festive et le rassemblement qui compte pourtant des milliers de personnes, bien moins encadré par les forces de l'ordre. Mais quelques gilets jaunes se sont pourtant glissés dans le cortège, expliquant être tout à la fois gilets jaunes et féministes. Femmes, hommes, enfants, familles, retraités et étudiants, le rassemblement était d'une ampleur inédite.
Je crois même qu'à Montpellier, sur la place de la Comédie, les Gilets jaunes ont fait une aide d'honneur aux manifestants de nous toutes.
Oui, et je crois à Lyon-Bellecour également.
Ben voilà. Très bien. Et merci Bastien. Et puis on se retrouve dans une prochaine émission.
Exactement. Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Loz Actuali.
On se retrouve, c'est la fin de cette émission avec Frédéric Dumortier. On va rappeler le mois de l'économie sociale et solidaire, organisé, coordonné par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la CRES, qui organise l'ensemble du programme. On ne l'a pas dit tout à l'heure, donc il faut bien le rappeler.
Sous leur impulsion, et en plus ils nous ont aidés à imprimer les jolis programmes que vous pouvez retrouver à l'Antirouille, à la Maison de l'Emploi, à la Mission Locale, dans quelques commerces et sur la toile, sur tous nos réseaux sociaux.
Voilà, et sachant que ben voilà, vous savez que la représentation régionale des radios en Occitanie est membre de cette chambre régionale qui représente au travers aussi du mouvement associatif justement tout ce mouvement également des associations et notamment des radios associatives. Donc voilà, le lien social ça ne sert à rien, venez prouver le contraire tout au long de cette fin de semaine, de mercredi 28 au samedi 1er décembre à l'espace Antirouille à Mende. Merci beaucoup Frédéric, cette émission va être rediffusée jeudi à 19h et la semaine prochaine également, le mardi à 12h30. Vous pouvez, donc ne venez pas, hein, ça sera passé, mais voilà, n'hésitez pas à retrouver bien sûr sur Facebook notre émission et sur le site bien sûr de 48FM. À bientôt, bonne quinzaine à tous.
Bye bye.
Merci beaucoup pour l'invitation.
À bientôt.
Loz Actualité.